Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à aller à l'enseignement de la parole de Dieu? Bonne affaire, parce que c'est ça que je m'en vais faire, là. Gloire à Dieu. On va pencher nos têtes et on va remettre ce temps maintenant au Seigneur. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence qui est toujours ici. On te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les vies de transformer, Seigneur, de ceux qui ont rencontré ton Fils et ceux qui ont goûté à ta présence, qui ont connu ta parole, Seigneur. Je te remercie pour la liberté que tu nous accordes lorsqu'on est exposé à ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour la révélation de ton esprit dans cette place, que tu nous accordes vraiment les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, Seigneur, ce qui est dans ton cœur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, il y a deux semaines, j'ai prêché sur le thème, c'était « Montons, emparons-nous du pays ». Et c'était un texte qu'on a lu. Et cette semaine, qu'est-ce que j'avais à cœur de vous partager? C'était en réalité une conclusion ou une deuxième partie de ce message-là. Et en fait, c'est comme une série sans savoir. Des fois, on prévoit de faire une série sur un certain sujet. Mais des fois, Dieu, il connaît des choses à l'avance. Et c'est sûr, il connaît toutes choses en avance. Mais des fois, le Seigneur, il nous dit pas qu'on est en train de démarrer une série. Mais à cause de sa brasse dans notre cœur, on réalise que finalement, ça devient une série. Alors, cette fois-ci, bon, l'autre fois, on a parlé comment on devait demander au Seigneur ou décréter « emparons-nous de ce pays que le Seigneur nous donne ». La semaine passée, on a parlé de la louange. Ça, c'est une des clés pour nous emparer du royaume de Dieu et du territoire que le Seigneur veut nous donner. Et cette semaine, c'est « donne-moi cette montagne ». Vous allez dire « oui, mais je pensais qu'on était supposé de parler à la montagne et qu'elle se jette dans la mer ». Et là, cette fois-là, tu dis « faut demander et dire « donne-moi cette montagne ». Bien, c'est quoi cette histoire-là? Bien, vous avez bien fait de poser la question. Parce qu'on va aller dans la parole et on va trouver la réponse. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans Nombre chapitre 13 et on va reprendre le texte qu'on a lu il y a deux semaines. Nombre chapitre 13 et on va aller au verset 26. Et moi, je crois que c'est un thème du Seigneur. C'est quelque chose dans le cœur de Dieu parce que Dieu veut que son Église soit réveillée avec le fait que Dieu veut nous donner du territoire spirituel. Croyez-vous ça ce matin? On n'est pas simplement rassemblés ici pour au nom d'une religion ou d'un mouvement d'église. On est ici pour honorer Jésus et parce qu'on croit que Dieu veut sauver la francophonie, on croit que Dieu a un plan et que c'est son amour en nous qui nous pousse à agir pour lui. Amen. Alors, une des choses qu'on doit comprendre, c'est le Seigneur veut qu'on puisse recevoir la révélation aujourd'hui qu'il s'attend qu'on va faire des choses pour avancer dans son royaume. Amen. Alors, on va lire ensemble Nombre chapitre 13, verset 26. Ici, ça parle du peuple d'Israël. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Alors, nous avons vu ensemble ici, bon, le peuple d'Israël, on sait qu'il y en avait 12 espions qui avaient été envoyés dans la terre promise pour voir, bon, c'est quoi qu'on pouvait retrouver dans la terre promise. Et puis là, voici leur rapport. On voyait ici au verset 27, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Et au verset 28, nous retrouvons le mot « mais ». Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. On va au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est que il y a deux camps. Il y a toujours deux camps dans le monde chrétien. Il y a le camp de la foi qui dit « Allons-y, emparons-nous du royaume de Dieu, emparons-nous des promesses de Dieu. » Et il y a l'autre camp qui dit « Mais, on ne peut pas parce qu'il y a tel problème, il y a telle chose qui sont trop difficiles. » Et puis là, notre vision est toujours sur le négatif. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont négatifs parfois? Oui. Est-ce que vous êtes négatif parfois? Jamais. Heureusement. Gloire à Dieu. Il y a personne jamais de négatif ici. Non, je pense on a tous des temps, on a tous passé par des moments où des fois on perd courage. Mais gloire à Dieu, on n'est pas obligé de rester comme ça. On peut changer notre perspective en se renouvelant par la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Dieu veut qu'on puisse être renouvelé pour voir comme lui il voit et entendre sa voix pour recevoir sa direction pour nos vies. Amen. Alors, on a le privilège. Et là, on voit ici qu'il y avait deux hommes de foi, Josué et Caleb. Parmi les 12 espions, il y en avait juste deux qui avaient un bon rapport. Et qu'est-ce qu'on retrouve également? C'est Caleb, il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que des fois, là, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? C'est, ça révèle l'état de notre cœur par notre proclamation, hein. On va se dire, ah, ben là, on peut pas parce qu'on est en train de constater les choses dans le naturel au lieu d'avoir la vision du Seigneur qui est beaucoup plus puissante et surnaturelle. Alors, ici, il devait dire au peuple, fermez-vous. Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est contraire à la parole de Dieu. Alors, des fois, là, quand on est devant une situation et on trouve que, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, dans le naturel, on est incapable d'y arriver. C'est trop gros, trop grand pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire des fois? C'est simplement se fermer la bouche. Hein, une grande révélation. Ne rien dire. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement prier et chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, tu nous appelles à faire telle affaire. On ne sait pas comment on va faire, mais on sait que toi, tu es capable. On sait que toi, t'es au-delà de cette circonstance humaine. Est-ce que ça se peut que Dieu vous appelle à faire des choses qui pourraient sembler impossibles? Je peux vous dire que la majorité du temps, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, ça va sembler impossible pour vous. Parce que Dieu, justement, est en train de nous conduire un pas à la fois, de gloire en gloire. Et s'il nous conduisait vers le bas, bien, on n'aurait pas besoin de relâcher notre foi. Hein? Pour s'écraser à terre, on n'a pas besoin de beaucoup de foi. Hein? D'abandonner, dire « OK, j'abandonne », ça prend pas la foi, ça. Mais pour dire « Je me lève, même si c'est difficile, même si ça semble impossible, par la foi, je relâche ma foi pour cette chose que le Seigneur m'appelle à faire. » Et là, j'y vais par la foi. Et savez-vous, à chaque fois qu'on répond à l'appel de Dieu, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Amen. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Et je peux vous raconter plein de témoignages comment Dieu nous a demandé de prendre des pas par la foi et comment il a entrepris pour nous surnaturellement. Et il y a des gens qui disaient, ben là, toi, tu es un chouchou du bon Dieu. Et c'était quoi ma réponse? Ben oui. Je suis chouchou du bon Dieu. Et ça donne, nous pouvons tous être des chouchous du bon Dieu. Gloire à Dieu. Là, on voit, il y avait deux hommes de foi, Josué et Caleb. Et on va regarder maintenant à Josué chapitre 14. Et on va lire ensemble, 45 ans plus tard, on retrouve Caleb, qui est maintenant beaucoup plus âgé. Il a 85 ans. Et puis, il n'a toujours pas reçu la terre promise, et on peut se dire 45 ans plus tard, ben coudonc, on devrait abandonner le projet. Sûrement, c'était pas de Dieu, quand ça prend du temps. Est-ce que vous dites « Amen » Non, dites pas « Amen ». C'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas la volonté de Dieu. Des fois, ça prend du temps d'accoucher. Il y en a des femmes, ça leur prend 10 mois au lieu de 9 mois. Hein, savez-vous ça? Des fois, il faut provoquer une femme pour qu'elle accouche. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la volonté de Dieu qu'elle accouche puis qu'elle va porter l'enfant dans son sein jusqu'à temps que l'enfant ait 18 ans. Non, il y a des saisons qu'on doit comprendre, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça. Non, mais c'est ça, faut comprendre. C'est pas parce que ça prend du temps nécessairement que ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, dans notre société micro-ondes, on pense que si Dieu le veut, ça va arriver du jour au lendemain. Et des fois, nous, les chrétiens nord-américains, on se dit, faut que ça arrive tout de suite. Par exemple, j'ai prié pour la guérison, j'ai prié une fois et j'ai pas vu de guérison. Donc maintenant, dorénavant, je ne prierai plus pour la guérison parce que ça marche pas. Avez-vous déjà entendu des choses comme ça? Ou j'ai semé de l'argent dans un ministère et je voulais avoir une récolte dans ce ministère-là et on dirait que ça n'a pas porté fruit. Donc finalement, je ferai plus jamais de semences jusqu'à temps que je meure. Alors il y a toutes sortes de pensées parce qu'on s'attend à une récolte automatique toujours. Mais Dieu nous dit qu'il est toujours fidèle et qu'il va faire grandir la semence. Il va faire en sorte que les choses qu'il nous a promises, qu'elles vont se réaliser. Mais il faut avoir un peu de patience. Gloire à Dieu. Moi, je suis d'accord avec ce que je viens de dire, là. Amen. Alors, on va lire Josué 14 et au verset 6. Ça dit, « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet au tien, à Kadès-Barnéa. » Au verset 7, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Le rapport, c'était le rapport que Dieu voulait entendre. C'était que Dieu est capable malgré les géants dans le pays. Au verset 8, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivit pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Verset 9, « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et si je chasserai comme l'Éternel a dit, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Au verset 13, Josué bénit Caleb. Et vous pourrez lire le restant chez vous. Mais qu'est-ce qu'on voit de cet homme-là? Même si on le retrouve 45 ans plus tard, il n'est pas découragé, mais au contraire, il dit, « Donne-moi cette montagne, c'est mon héritage et je veux aller conquérir par la puissance de Dieu. » Est-ce que vous avez cette même foi en dedans de vous que même si Dieu vous a donné une promesse il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que vous croyez encore dans la promesse de l'Éternel dans votre cœur ou est-ce que vous avez permis au temps de vous voler ce dépôt, cette semence dans votre cœur? J'espère que le temps ne vole rien, mais que vous persévérez dans votre foi, vous conservez cette semence jusqu'à temps que vous puissiez vraiment voir la récolte dans vos vies. Alors moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Et je crois que lorsqu'on continue à croire, et comme on voit ici Caleb qui croyait et qui relâchait sa foi pour voir des miracles de la part de Dieu, pareillement, un moment dans la présence de Dieu, c'est suffisant pour vivre des grandes percées. Quand on se tourne vers Dieu et on rentre dans notre solitude avec lui, dans notre garde-robe cachée, comme on retourne la parole, dans cette place secrète avec le Seigneur, quand on le retrouve comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il nous qualifie par la présence de son Saint-Esprit en nous. Et là, on voit des miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Heidi Baker. Heidi Baker, c'est une femme de Dieu, une missionnaire avec son mari Roland Baker qui sont au Mozambique. Et ce couple-là, en tout cas, pendant des années de temps, il travaillait avec une dénomination chrétienne qui aimait Dieu, certainement. Et puis, il y avait un cœur de missionnaire. Et pendant 17 ans, de travail missionnaire, ils ont établi 4 églises. Et on dirait, c'est merveilleux, 4 églises en 17 ans, c'est quand même très bien, n'est-ce pas? On dirait, au Québec, surtout si on voyait ça, 4 églises en 17 ans, c'est bien d'avoir établi, et c'est pas juste avoir parti 4 églises qui ont fermé, là. Non, non, mais 4 églises qui ont existé. C'est bien. Mais quand cette femme-là a reçu une touche de Dieu dans son cœur et dans son corps, elle a ressenti la présence de Dieu qui est venue sur elle, elle a été totalement transformée par la présence de Dieu. Et après 8 ans, OK, après 8 ans de ministère, après cette touche de Dieu dans sa vie, elle a, avec son mari, établi 8000 églises. Voyez-vous la différence? Alors, peut-être ça vous prend 45 ans avant d'entrer dans votre terre promise, mais un moment, une touche de Dieu peut vous qualifier et ramener tout ce temps-là et vous faire vivre la gloire de Dieu dans un moment. Donc, 8000 églises en 8 ans. Mais savez-vous le prix qu'elle a dû payer? Son association d'églises lui a dit, écoute, toi et la puissance de Dieu, on n'aime pas ça. Alors, tu dois renier cette visitation que tu as reçue de la part de Dieu, tu dois renier ça, sinon on va te couper les fonds financiers. Et à ce moment-là, 90% de son revenu annuel venait de cette organisation chrétienne-là. Il lui donnait 1 million par année pour faire le ministère. Et combien d'entre nous qu'on aime ça avoir une job, qui ici aime ça avoir un salaire assuré? On aime ça, hein, en tant qu'être humain. Mais si Dieu vous dit de relâcher cet emploi-là pour obéir à son appel, seriez-vous prêt à le faire? Bien, Heidi Baker, qu'est-ce qu'elle disait? C'est que même s'ils ont dit, OK, tu dois renier la puissance de Dieu pour qu'on puisse continuer à te payer et te donner un soutien financier, elle a choisi de dire, non, je peux pas renier ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et Dieu a entrepris pour ses besoins surnaturellement. Et au lieu d'avoir quelques milliers de personnes de sauver et de toucher par la puissance de Dieu après 17 ans, bien en 8 ans, ils ont eu maintenant au-dessus de 1 million de convertis. Alors, gloire à Dieu. Voyez, on voit que quand on a une touche de Dieu et quand Dieu change notre vie, change nos cœurs, bien, Dieu peut faire n'importe quoi avec nous. Mais si notre cœur appartient à l'argent ou notre cœur est tourné vers le naturel et on se préoccupe des choses que notre jugeote peut discerner, bien, Dieu a besoin de nous changer. Dieu a besoin de nous changer pour qu'on puisse avoir cette passion pour lui. Et on doit avoir dans notre cœur ce désir de dire, donne-moi cette montagne. Peut-être la montagne de votre vie, je ne sais pas, l'héritage que Dieu vous a donné. Peut-être c'est que votre famille va être sauvée. Est-ce que ça se peut que Dieu veut sauver vos proches? Absolument. Peut-être vous, votre rêve et la destinée que Dieu vous a promis, c'est que votre nation, peut-être la France ou peut-être la Suisse, ou peu importe les pays qui écoutent en ce moment, peut-être vous vous dites, moi là, je veux voir ma nation sauvée. Moi, je veux voir le Canada sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est possible. C'est possible, mais il faut avoir dans notre cœur le zèle et la passion que Dieu est capable de faire et dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi la montagne du Québec. On va aller conquérir par la puissance de Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Oui, mais les gens sont pas ouverts. C'est faux, ça. Les gens sont ouverts à toutes sortes de mensonges, sont ouverts au nouvel âge et à toutes sortes d'affaires, ils sont ouverts aux sectes parce que personne qui leur prêche l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, moi, j'ai entendu plutôt un témoignage d'un homme. Non, je l'ai rencontré. Ça faisait 30 ans qu'il était témoin de Jéhovah. Vous connaissez? Et il a dit, pendant 30 ans, il a fait des portes à porte. Et puis, il attendait toujours le jour où quelqu'un lui parlerait du vrai royaume de Dieu. Et il avait une soif de Dieu, mais personne ne lui partageait l'évangile. Tout le monde y fermait la porte. Et il disait, quand j'arrivais chez les chrétiens, les gens étaient méchants avec moi, me fermaient la porte. Et puis, j'avais soif de Dieu, mais ça se pouvait pas que Dieu se retrouvait chez eux parce qu'il n'y avait pas d'amour, ces gens-là. Mais un jour, quelqu'un a dit, je veux te présenter Jésus. Et là, après 30 ans, pour la première fois en 30 ans, quelqu'un lui a présenté le salut par grâce en Jésus. Et à ce moment-là, il a dit, oui, je veux ce message de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Et il a été sauvé. Mais ça lui a pris 30 ans à la recherche de Dieu. Mais vous savez, Dieu est capable de le faire à travers nous. Dieu est capable de se servir de nous pour rejoindre des gens. Amen. Et laissons pas le temps nous limiter. Alors, mon premier point ce matin, c'est que Dieu a une montagne qu'il veut vous donner. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et Dieu a donné des paroles prophétiques pour certains d'entre vous. Ici, vous avez déjà eu des promesses de Dieu. Ou peut-être c'est juste un dépôt dans votre cœur, un rêve que vous avez depuis l'âge de 3-4 ans, je sais pas. Moi, depuis l'âge de 4 ans, il y a des choses que j'ai vues. Que le Seigneur m'a montré à 4 ans, et quand je me suis ramassé à la télévision en Alberta, et les gens me disaient, est-ce que tu es surpris, toi, de te ramasser à la TV? J'ai dit non, j'ai toujours su ça. C'est comme si c'était imprégné dans mon cœur. Dieu me l'avait montré, c'était toujours là. Et vous, pareillement, peut-être vous vous voyez, je ne sais pas, en train de jouer au hockey. Peut-être c'est l'idée qui me vient dans la tête. Peut-être c'est ça votre rêve, là, c'est de jouer le hockey professionnel. Mais savez-vous, si c'est un plan de Dieu puis un rêve que Dieu a déposé dans vos cœurs, pourquoi pas? Ah, ben là, je ne peux pas en parler, les gens vont rire de moi. Puis ça, les gens rient déjà de nous. Alors, non, mais c'est vrai. Si Dieu vous a donné un rêve, accrochez-vous à Dieu et accrochez-vous au rêve de Dieu qui vous a donné. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit réaliser avant d'aller conquérir cette montagne et la recevoir comme territoire? Des fois, il y a d'autres montagnes qui sont là et on doit faire face à ces montagnes-là. Et ce matin, qu'est-ce que je veux faire? C'est juste passer quelques temps pour vous démontrer quelques montagnes qui sont là devant nous. Alors, mettez vos lunettes, vos goggles, comme on dit en anglais, là, et on va les voir, on va survoler et on va voir ces montagnes-là. La première montagne, c'est la montagne de la minorité. C'est quoi que ça mange, ça? La montagne de la minorité. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que quand Dieu vous donne un rêve ou une vision, souvent, vous êtes la seule personne qui va avoir ce rêve-là. Souvent, c'est comme ça. Dieu vous a montré quelque chose, c'est vrai dans votre cœur et c'est vraiment une passion en vous, mais ça se peut que personne d'autre sur la planète semble être d'accord avec vous. Et que vous êtes en minorité à porter ce fardeau-là. Je peux vous dire, en 2004, quand le Seigneur m'a donné un fardeau pour la francophonie, et puis on a fait un shift du ministère anglophone vers la francophonie, je peux vous dire que j'avais le sentiment dans mon cœur que si je répondais pas à l'appel de Dieu pour la francophonie, que personne d'autre sur la planète le ferait. Mais je savais que c'était pas vrai. Je savais qu'il y avait plein de ministères. Mais quand Dieu nous donne un mandat personnel, c'est comme si c'est juste nous qui peut le faire. Comprenez-vous? Alors, si Dieu vous appelle à faire un CD de musique, par exemple, à chanter, mais c'est tellement quelque chose qui vient vous passionner qu'on dirait, si vous le faites pas, il y a personne d'autre sur la planète qui va faire un CD de musique. Mais vous savez, dans votre tête, vous le savez qu'il y en a d'autres qui vont le faire, mais c'est un mandat personnel de Dieu. Amen. Alors, faut comprendre des fois qu'on va être tout seul à porter le fardeau de Dieu. Des fois, on sera pas appuyé par tout le monde. Et même, des fois, c'est le contraire. Des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais toi, ton rêve, c'est pas vraiment réaliste. Tu t'es-tu vu? Mais voyons. Toi, supermodel. Non. Peut-être, des fois aussi, on peut rêver d'une façon charnelle. OK? Ça se peut. Mais quand c'est les rêves de Dieu et Dieu nous a donné un rêve, laissez pas les gens vous décourager du rêve. Une des choses que je veux vous partager, c'est que les visionnaires, ce sont des leaders. Ce sont pas des suiveux. Si Dieu vous a appelé à être un leader, ben vous êtes visionnaire. Mais ceux qui sont pas nécessairement leaders ne sont pas nécessairement visionnaires non plus. Et même en démarrant cette assemblée, au début, là, quand on était à l'auberge et quand c'était un petit peu plus dur et on a eu des temps, on a eu des saisons difficiles et d'autres plus faciles. Mais qu'est-ce que ça prend au début, là? C'est des gens qui ont la vision, qui croient que Dieu est capable de le faire. Savez-vous que ça prend pas un visionnaire pour arriver dans une église où tout est parfait, où la vision est déjà accomplie? Hein? Vous pouvez dire, ben là, une fois que la vision est accomplie, et dire, ben moi, je crois dans cette vision-là. Ben ça, c'est facile de croire dans la vision tout accomplie. C'est comme dire, moi, je crois que cette maison va exister. Mais elle est déjà là. Elle existe déjà. Est-ce que vous avez besoin beaucoup de foi et croire que cette maison va exister quand vous la voyez? Non, ça prend aucune foi. Ça prend pas de foi de dire, je crois dans cette vision-là. C'est juste, elle est là. Alors, maintenant, on croit, on peut faire partie de la vision. Mais ça prend des gens de foi comme Caleb qui disait, donne-moi cette montagne et croire que c'était possible avec Dieu de l'accomplir. Alors, moi, je me réjouis que dans cette assemblée, on a des visionnaires. Amen, je crois. Est-ce que vous êtes visionnaire? Amen. Moi, je crois qu'on a des visionnaires et qu'on a des gens de foi qui croient que c'est possible de voir du changement dans la francophonie. Il y a des gens qui disent, c'est impossible, les gens s'en vont en enfer, ça donne rien, on va se rassembler entre nous. J'ai entendu des hommes de Dieu dire, faut juste se rassembler entre nous parce qu'on sait que la tribulation s'en vient et puis les gens s'en vont tous en enfer. Et faut même pas s'attendre qu'il va y avoir un réveil. Voyons, la Bible nous dit qu'il va y avoir l'apostasie. Alors, faut juste rester là jusqu'à temps que l'enlèvement ait lieu puis on va sortir puis ça va être la fin des choses. Moi, je crois que oui, on va être enlevé, absolument, mais je crois avant l'enlèvement qu'on va voir une visitation de la gloire de Dieu et qu'on va vivre un réveil. Je crois que Dieu veut pas que les masses en aient en enfer. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'être renouvelé puis de croire, hey, la présence de Dieu, là, était pas juste pour le livre des Actes, la présence de Dieu est pour nous aujourd'hui. Alors, si on croit dans cette vision qu'il y a une vague de la gloire de Dieu qui s'en vient dans la francophonie, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de continuer à y croire et d'être un visionnaire et de voir dans le monde spirituel qu'il y a des masses qui vont se tourner à Dieu prochainement et même aujourd'hui. C'est possible. Mais si on croit, là, faut juste maintenir les choses jusqu'à temps qu'on soit enlevé, on passe à côté le privilège d'être des soldats dans l'armée de Dieu et de voir la récolte. Une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que vos idées ou vos rêves différents, là, ils peuvent se faire ridiculiser. Avez-vous déjà entendu parler de Noé, par exemple? Noé, c'est un homme assez particulier, quand vous y pensez, hein? Qui construisait l'arche. Vous connaissez l'arche de Noé, sûrement. Et vous savez, il n'y avait pas un fan club. Il n'y avait pas un mailing list pour dire, voici comment vous pouvez féliciter Noé pour ce grand ministère. Il va tous sauver la planète et blablabla. Non, il n'y avait pas une communauté comme ça d'applaudissements. Mais au contraire, les gens se moquaient de lui. Mais quand même, Noé, c'est un homme de Dieu qui avait entendu la voix de Dieu. Et même s'il était en minorité, Dieu était avec lui. Amen. Peut-être vous êtes en minorité et vous croyez que Dieu va sauver votre famille et toute la parenté vous dit, ils s'en vont tous chez le diable. Et ce sont des chrétiens en passant qui vous disent ça. Mais vous êtes la seule personne dans votre famille qui croit que votre famille va être sauvée. Savez-vous, une personne c'est assez. Une personne qui croit à Dieu c'est assez pour vivre des changements. J'ai entendu le témoignage, vous savez, en Écosse, il y avait deux petites madames âgées, je pense de 90 ans, qui priaient Dieu pour vivre un réveil en Écosse. Vous connaissez l'histoire, le réveil des Hebrides, en français, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, c'est un grand réveil où les gens se tournaient vers Dieu, ils marchaient dans les rues et la conviction de l'Esprit venait sur eux. Ils se repentaient dans les bars, ils mettaient de côté leur bière et se tournaient vers Dieu, se repentaient. Pourquoi? Il y avait deux petites madames qui se réveillaient super de bonne heure le matin et qui se couchaient très tard et qui priaient Dieu et qui disaient « Seigneur, envoie un réveil de ton esprit parmi nous. » Deux personnes ont été suffisantes pour que Dieu agisse dans cette place. Une personne, vous êtes cette personne-là pour prier pour votre famille et pour accoucher des rêves que Dieu vous donne. Une des choses dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, il est écrit « Ceux qui sont... heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et peut-être vous allez être persécutés. Peut-être les gens vont faire de la médisance contre vous à cause que vous portez le rêve de Dieu. Moi, je peux vous dire, à l'âge de 5 ans à l'école, quand j'ai commencé à fréquenter l'école primaire, les enfants se prosternaient devant moi et disaient « Alléluia, Alléluia ». Et j'arrivais à la maison, puis je pleurais, puis je disais « Maman, les enfants se sont moqués de moi parce que j'aime Jésus. » Et ma mère m'a dit, réjouis-toi Joël, réjouis-toi parce que tu as été trouvé digne de te faire moquer pour le nom de Jésus. Alors, vous savez, quand on se fait persécuter, on peut dire soit, bien là, je vais arrêter de faire telle ou telle affaire, ou je vais arrêter de croire dans la promesse, c'est ridicule, tout le monde rit de moi. Ou au contraire, ça peut vous pousser et dire, je continue et je vais aller de l'avant avec Dieu et je vais voir la gloire de Dieu dans cette chose. Vous savez, les gens autour de vous, ça se peut qu'ils sont pas visionnaires et qu'ils voient juste dans le naturel. Et si vous côtoyez ces gens-là et vous laissez les gens dans le naturel vous guider dans votre vie, vous allez passer à côté de votre destinée de gloire en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui trouvent à critiquer sur tout. Sur tout. S'il y a une chose nouvelle dans l'église, les gens vont dire, ben, c'est pas de Dieu. Vous savez, même une galerie d'art sur un site web, ça peut faire parler des gens. Ils vont dire, ben, coudonc, comment ça une église va mettre de l'art? C'est quoi le rapport de l'art dans une église? Vous savez, il y a des gens qui vont dire ça, mais ça dérange pas. Est-ce qu'on va dire, mais finalement, on se fait pas applaudir de tout le monde, on va arrêter ça. Non, on va faire des choses différentes, ça dérange pas, parce qu'on répond à l'appel de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, faut pas se laisser, on est correct, on est minoritaire. Pis ça, j'ai toujours été minoritaire. À l'école, ils n'avaient pas de club social. Hey, félicitations Joël, c'est un enfant de Dieu. Ouh, non, c'est le contraire. Mais ça dérange pas parce que quand on est avec Dieu, même si on est minoritaire, avec lui, on est majoritaire. Amen, parce que Dieu est plus grand que n'importe qui. Une autre chose qu'on doit faire face, c'est la montagne de la nature humaine. La nature humaine, dans 1 Corinthiens 2, 14, ça nous parle de l'homme animal qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. OK? Parce que ce sont spirituellement qu'on en discerne ou qu'on en juge. Savez-vous que quand M. Bell a inventé le téléphone, il n'y avait pas un comité d'applaudissements lui non plus, là. Les gens disaient, ça se peut pas, c'est impossible. Ou encore, un homme va aller sur la Lune, voyons donc, t'es tombé sur la tête. Hein? C'est impossible. Ou même un homme qui pourrait voler, voyons, on n'est pas des oiseaux. Soyons réalistes. Mais c'est où le verset dans la Bible qui nous dit on doit être réaliste? Je n'ai jamais trouvé ce verset-là, être réaliste. Mais Dieu nous appelle à être dans la foi. Hein? Et savez-vous, une des raisons pourquoi des fois les gens vont vous décourager de votre rêve, c'est que vous osez croire au rêve de Dieu. Ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux que vous osez croire au rêve de Dieu. Et ils veulent vous attirer, vous emmener vers le bas comme eux. Et là, savez-vous qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au niveau en bas, pas dans la foi? Là, vous commencez à voir les gens et à critiquer ceux qui ont la foi et ceux qui ont le rêve de Dieu. Mais laissez jamais les gens et dans leur nature humaine vous décourager d'entrer dans votre appel. Une autre chose, la montagne de l'abandon et de l'isolement. Moi, je crois, quand on regarde les Écritures, on voit la vie de Jésus. Jésus avait un ministère avec beaucoup de fruits, c'est évident. Et dans Marc chapitre 1, je vais vous inviter à tourner là, Marc chapitre 1, verset 34 à 35, nous voyons ici le ministère de Jésus et le prix que ça coûtait. Dans Marc chapitre 1, verset 34 à 35, dans la version français courant, c'est dit « Jésus guérit beaucoup de gens ». Qui aimerait ça guérir beaucoup de gens ici? Amen. OK, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Les autres, on a des sessions de conseillers pour vous, là. Non, mais Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler des esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Verset 35. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Voyez, dans la vie de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait? C'est qu'il y avait un ministère de gloire, il y avait un ministère de miracle et tout ça, c'était merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'isolait. Volontairement, il choisissait de vivre un temps seul avec Dieu, de prier. Et je peux vous dire, le secret de toute puissance, c'est ce temps-là que vous allez prendre avec Dieu. C'est le temps où vous allez simplement chercher la présence de Dieu. Alors, c'est bien, en fait, de s'isoler pour être avec Dieu. Et on n'est jamais tout seul quand on est avec Dieu. Et des fois, quand vous êtes dans le ministère, et ça, c'est une chose qu'on peut vivre, des fois, dans le ministère, on se retrouve tout seul. Et c'est un prix à payer. Surtout si vous êtes une femme de pasteur, moi, je peux vous dire, ma femme, elle voit la différence, comment les gens peuvent la côtoyer, considérablement comment elle était côtoyée avant. Les gens la voient d'une façon différente. Et même quand on était dans le ministère en Alberta, c'est comme ça. Quand c'est la femme du pasteur, on va s'attendre d'être avec elle un petit peu différemment. Et avec moi, c'est la même chose. Et c'est normal parce qu'un pasteur ne peut pas avoir la même relation avec tout le monde. Ça serait impossible. Mais l'affaire est, c'est que des fois, il y a un prix. Il faut accepter d'être isolé pour être connecté avec Dieu. Et vous, pareillement, peu importe votre appel dans la vie, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, et c'est ceux qui vous appellent à faire quelque chose, vous devez payer le prix en vous consacrant et à passer du temps avec Dieu. Savez-vous, les statistiques concernant le temps de prière que les chrétiens prennent là, ici en Amérique du Nord, c'est ridicule. C'est quelques minutes par jour. Et même que les pasteurs prennent quelques minutes par jour, que les pasteurs vont prier et chercher Dieu. On peut lire beaucoup de livres, on peut lire la Bible, mais passer du temps à prier, je peux vous dire, c'est ridicule. Et comment est-ce qu'on peut croire qu'on va avoir un réveil sans être connecté avec celui qui donne le réveil? Ça se passe tout dans la prière. Si on veut vivre la gloire de Dieu, si on veut vivre qu'est-ce que Jésus vivait, les signes, les prodiges, les miracles, on doit se connecter avec Dieu. On peut pas marcher juste terre à terre et s'attendre de vivre la gloire du ciel. Faut se connecter. Alors, faut accepter de vivre l'isolement. Une autre chose, on doit accepter de vivre l'abandon. Vous savez, quand vous commencez à vivre la gloire de Dieu, c'est pas tout le monde qui va se réjouir avec vous. Grande révélation, il y en a qui vont dire, « Ah ben toi, tu es du diable. Si tu as des miracles dans ton ministère ou il y a des choses qui se passent, tu dois être du diable. Parce que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. » Avez-vous déjà entendu parler de ça? Que Dieu avait pris une retraite et que tout d'un coup maintenant, là, toute la Bible, c'est fini. Et les miracles qu'on retrouve là, Dieu ne peut plus rien faire. Mais dans 1 Corinthiens 1, 7, ça dit qu'il ne manque aucun don jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu ou de la manifestation du Fils de Dieu. Alors, on est supposé avoir les dons de l'Esprit en opération. On est supposé de vivre quelque chose avec Dieu. Mais si vous commencez à vivre la gloire de Dieu, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont vous abandonner. Savez-vous, Jésus a été abandonné des gens? Les gens ont dit que Jésus était rempli d'un démon et qu'il opérait ses miracles par les démons. Dans Jean 6, verset 54, ça dit, ici c'est Jésus qui parlait, et il disait un texte ou une parole ici difficile, Matthieu 6, 54, il disait, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Bon, vous entendez une parole comme ça, c'est quasiment une invitation à devenir cannibale, et là on se dirait, « Wow! Quelle sorte de discours! » Hein, ça va pas plaire à tout le monde, évidemment. Verset 60, « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Verset 61, « Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Voyez-vous, Jésus, là, qui est le chemin, la vérité, la vie, celui, la source de la vie, même lui, il a été abandonné parce qu'il disait la vérité. Mais les gens ne pouvaient pas recevoir qu'est-ce qu'ils disaient. C'est comme, non, ça les scandalisait. Ça se peut que quand Dieu va vous appeler à parler pour lui, peut-être qu'est-ce que vous allez dire va scandaliser des gens. Est-ce que ça se peut? Ça se peut. Faut y aller avec amour, toujours. Mais ici, on voit que les disciples de Jésus, pas les 12 là qu'on parle, mais les disciples qui l'accompagnaient, il y avait des foules qui étaient là. Il y avait des foules qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient voir les miracles. Hein? Qui aimerait ça, avoir de la bouffe gratuite, du poisson et du pain gratuit? Hein? C'est le fun, ça. J'aime ça. J'aimerais ça, moi, qu'un bon dimanche, on vous donne du pain, du poisson, des Big Mac, tout ça gratuitement, et ça coûte rien, ça serait le fun. Mais quand on voit ça dans un regroupement, wow, c'est le fun. Mais quand Jésus disait, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'êtes pas mes disciples, là, les gens, là, ça passe à pas. Et ici, on voit, là, les gens n'allaient plus avec lui. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui vont vous abandonner quand vous allez dire oui à l'appel de Dieu sur votre vie? Ça se peut. Est-ce que vous allez être guidé par vos amis ou par l'appel de Dieu sur votre vie? Vous savez, Joyce Meyer, vous la connaissez sûrement, elle témoigne que lorsqu'elle a été remplie du Saint-Esprit, qu'elle a été abandonnée de tous ses amis. Ses amis l'ont tous flushé, comme on dit en québécois. Ils l'ont tous flushé. Ils ont dit, oh, t'es rendu, t'es pas correct, là, toi. Alors, elle a perdu tous ses amis. Mais elle a continué avec Dieu et maintenant, c'est une femme qui prêche et est une des plus grandes femmes ministres au monde. Bonne affaire qu'elle ne s'est pas laissée décourager. Hein? Bonne affaire. Donc, faut accepter l'abandon. Et dans le Proverbe 25, verset 19, dans la Bible du Semeur, Proverbe 25, 19, ça dit « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. » Donc, savez-vous, c'est une bonne affaire quand vous découvrez qu'une personne que vous aimez beaucoup, c'est une personne déloyale. C'est une bonne affaire finalement parce que quand vous allez vivre une épreuve, vous avez besoin des amis qui vont se tenir avec vous malgré les choses difficiles dans vos vies. Parce que si vous êtes entouré avec des personnes qui sont juste superficielles dans leur amitié, sont là juste dans les bons jours, et là, il y a un mauvais jour qui se présente devant vous, vous êtes dans un mauvais jour, et là, ils vous laissent tomber. Ça, c'est pas bien, hein? C'est pas le fun. On a besoin des gens solides qui vont nous aimer coûte que coûte dans les bons et les mauvais jours. Alors, faut accepter ça qu'il y a des gens qui vont nous abandonner pour qu'on puisse entrer dans l'appel de Dieu sur notre vie. Et il faut pas se décourager. Jusqu'à date, est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes encore réveillé? Amen. Alors, même si quelqu'un vous abandonne, vous abandonnerez pas Dieu et son appel sur votre vie. Amen. Une autre chose. Montagne de la réputation. Oui, on se regarde dans le miroir, on dit, voilà, je suis une créature si merveilleuse. Hein? Amen. Puis on fait ça, puis on se trouve bien beau, puis gloire à Dieu. Bien, c'est vrai, on est une créature si merveilleuse. Dieu nous a créés et Dieu n'a pas fait d'échec, hein? Mais une des choses qu'on doit faire aussi, c'est que ne pas trop se préoccuper avec l'opinion des gens. On peut vivre toute notre vie et vouloir être approuvé des gens. Mais je peux vous dire et je peux vous encourager, avant d'entrer dans la plénitude de votre destinée, attendez-vous à ceci, que les gens peuvent prendre vos paroles et les twister. Hein? C'est un beau mot francophone, ça, twister. Mais les mal citer vos paroles, les déformer. Moi, j'étais pris en exemple des fois sur l'Internet. On a pris mes paroles, on les a déformées pour dire d'autres choses que j'avais jamais prononcées. Et si je me laissais déranger par ça, je me mettrais à pleurer puis dire « Oh Seigneur, je suis persécuté. » Puis là, je serais super triste et viré à l'envers. Puis, savez-vous, on m'a dit que j'étais un faux prophète. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois que Dieu bénit son peuple lorsqu'on lui remet nos dîmes et nos offrandes. J'étais sur un site web avec tous les faux prophètes. Puis j'étais sur 3 sites comme faux prophète à cause que je disais que Dieu bénissait son peuple. Mais on dit, mais ça se peut-tu? Mais savez-vous qu'est-ce qui m'a réjoui? C'est qu'en dessous de mon nom, devinez qui était là? Billy Graham. J'ai dit, bon, ben, j'étais en bonne compagnie. Parce que lui aussi était faux prophète. Mais imaginez si on se laisse gouverner par l'opinion des gens. Puis là, eh hey, ben, savez-vous, Joel Spinks, il dit telle affaire. Mais si vous l'avez pas entendu sortir de ma bouche, ça veut pas dire que c'est ça. Je veux vous encourager. Ça veut pas dire que je dis telle affaire. Parce que des fois, on peut mal citer des choses ou mal citer les personnes. Et ça se peut que dans votre vie, les gens vont vous mal citer. Et souvent, moi, j'ai eu l'expérience, je peux vous dire, j'étais avec un frère dans le Seigneur, je m'en venais au Québec en visite, et là, le frère dans le Seigneur, il me parlait de quelqu'un à la télévision, une personnalité. Et lui, il est en train de dire, bah, cette personne-là, là, est comme ci, est comme ça. Il se mettait à juger la personne. Puis tant qu'à moi, c'est pas une femme de Dieu, elle, puis blablabla. Puis moi, j'étais juste silencieux. J'ai dit, moi, là, je la connais personnellement, cette femme-là. C'est une femme de Dieu. Savez-vous, les gens, là, quand on voit les gens à la télévision, des fois, on pense qu'ils sont en plastique, je sais pas, là, ou que, je sais pas, c'est quoi qu'on pense, mais des fois, quand on fait rien pour Dieu, là, on est inactif, on se retrouve, là, assis, et quand on est assis, on est en bas, on regarde ça en haut et on critique ça en haut. Savez-vous, moi, je pense, là, si on veut entrer dans notre destinée, il faut faire attention qu'est-ce qu'on dit. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui vont toujours, toujours critiquer. Mais est-ce qu'on va se laisser gouverner par la critique des gens? Savez-vous, vous pouvez passer à côté de votre destinée parce que vous dites, ben, je peux pas faire telle affaire parce que les gens vont rire de moi. Pis ça, si les gens rient de vous, ça dérange pas. Même au contraire, réjouissez-vous quand vous vous faites persécuter pour le nom de Jésus. Réjouissez-vous, lancez-vous, faites-vous un party. Faites-vous un party chez vous, décorez ça. Je suis un enfant de Dieu, je rentre dans ma destinée. Amen. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va me décourager. Je vais rentrer dedans. Gloire à Dieu. Et si les gens, les chrétiens qui n'ont pas la foi me découragent de rentrer dans ma destinée, ben, ça dérange pas. Moi, je rentre quand même. Et même, des fois, je peux voir ça puis ça peut stimuler ma foi et dire, moi, je continue. Je continue d'aller de l'avant. Amen. Alors, ça, c'est tout ça pour dire qu'on doit jamais se laisser gouverner par la réputation. Une autre chose, savez-vous qu'il y a des esprits religieux dans le monde? Les esprits religieux, là, c'est des esprits qui aiment pas des choses différentes. Faut que ça soit toujours la même affaire. On arrive à l'église, faut toujours que ça soit à la même place. Faut toujours se croiser la jambe de la même façon. Faut toujours se peigner de la même façon. Faut jamais se laisser pousser une barbe. Faut rien faire de différent. Non, mais c'est vrai, hein? Dans le monde religieux, on est religieux. Mais, on se laisse pas gouverner par la religion, parce que la religion, savez-vous, il n'y a pas une file d'attente pour ceux qui veulent découvrir la nouvelle religion. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est goûter à la présence de Dieu. Et savez-vous que la présence de Dieu, ça s'offre pas dans un package, dans une boîte. Et voilà la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu se retrouve là où l'Esprit de Dieu règne avec liberté. Alors, faut entrer dans la liberté de Dieu et louer Dieu et vivre la présence de Dieu. Et savez-vous, les esprits religieux, souvent, là, ben, vous allez les retrouver dans les églises. Ça veut-tu dire qu'on va plus à l'église? Parce que, oh, ben, là, il y a des hypocrites à l'église, j'irai plus à l'église. Non, non, on fait pas ça. Il y a des gens imparfaits à l'église aussi, puis on y va quand même. Le moment même, je sais ici, vous êtes tous parfaits, là, mais moi, quand j'arrive à l'église, je rends cette église imparfaite. Alors, elle n'est pas parfaite, cette église-là. Hein? Moi, je suis pas parfait. Un jour, je vais arriver comme vous autres. Je vais être parfait comme vous. Mais jusqu'à ce temps-là, vous devez prier pour moi. Matthieu 23, verset 12 à 14, ça dit, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Jésus était rempli d'amour, hein? C'est touchant. Il dit, « Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. » Et vous ne laissez pas entrer ceux qui ne veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Pourquoi est-ce que les religieux veulent nous empêcher d'entrer dans notre destinée, qui veulent nous empêcher d'avancer? Ben, c'est parce que l'esprit religieux ne vient pas de Dieu, donc il vient de l'ennemi, et l'ennemi ne veut pas voir le royaume de Dieu avancer. C'est pas une grande révélation. Donc, Dieu veut qu'on puisse avancer et faire en sorte que son royaume avance et touche des gens, sauve des vies. Alors, l'ennemi va s'opposer. Matthieu 11, 12 nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, faut être violent en esprit et dire oui, on y arrive quand même. Et dans Deutéronome 11, 24 à 25, dans la Bible du Sommeur, ça dit, tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. Au verset 25, personne ne pourra vous résister. Ça veut pas dire que les esprits religieux n'essayeront pas de vous résister. Ça se peut qu'ils vont essayer et vont essayer de vous décourager et dire non, tu peux pas faire ça. C'est impossible. Non, on peut pas chanter telle chanson parce que ça va nécessiter du drum. Et Dieu est contre les drums. Tu savais pas ça? Il y a des gens qui vont vous dire ça. Non, tu peux pas avoir cette couleur de chemise-là parce que les saints portent juste du noir. Savez-vous que ça existe aussi? Porter une chemise jaune, c'est trop charnel. Ça attire l'attention sur nous. Ou une chemise rouge. Il y en a, là, qui portent des chemises rouges. Non, mais c'est vrai. Il y a toutes sortes d'idées préconçues. Vous savez, ma mère, elle me disait, quand elle était jeune, ma mère, là, quand elle était plus jeune, elle disait que les dimanches, c'était péché d'aller patiner. les dimanches. C'était comme, c'était un péché, ça, d'aller patiner. Alors, toute sa vie, là, elle a grandi, elle patinait pas. C'est pas qu'eux, ils croyaient que c'était péché, mais il y avait tellement de gens dans les entourages qui croyaient que c'était péché, ils voulaient pas être un mauvais témoignage. Ou, dans le temps aussi, ma mère, vous savez, ma mère, elle était une femme qui aimait toujours ça, être habillée assez chic, puis était modiste, elle faisait des chapeaux, puis dans le temps, c'était la mode des peignures hautes. Vous connaissez les beehives, comme on dit en anglais, les peignures hautes, là, comme Marge Simpson, là? Bon, ben, elle portait ces peignures hautes, là. Et il y avait une petite madame à l'église qui pensait qu'elle était très charnelle parce qu'elle suivait la mode. Elle était modeste, là, ma mère était habillée modestement. Mais une bonne fois, une petite madame est venue et dit, et elle a touché les cheveux. Ça, c'est pas tes cheveux, c'est pas tes cheveux. En pensant que c'était une perruque, là. Mais finalement, c'était ses vrais cheveux. Puis là, elle a séché, la madame, là. Mais tout ça pour dire que, non, mais c'est ça pour dire que on peut être gouverné par des commentaires des gens, l'opinion des gens, et s'empêcher de rentrer dans notre appel. Mais le royaume de Dieu avance et l'ennemi recule. Éphésiens 6, 11 à 12, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et des fois, les ruses du diable, c'est pas nécessairement quelqu'un qui arrive dans nos églises qui ressemble à une sorcière. Des fois, c'est la plus belle petite madame, mais avec plein d'amertume dans sa bouche. Elle peut super bien peigner, coiffer, puis chanter l'opéra à l'église, mais finalement, en dedans d'elle, là, elle est remplie d'amertume. Ça peut être une des portes d'entrée, savez-vous ça? Au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Une autre chose, un autre encouragement pour vous ce matin, c'est que ça se peut que vous allez être mal compris et même mal aimé. Oui, je sais, c'est nouveau, vous venez de l'apprendre pour la première fois. Mais dans 1 Corinthiens 13, verset 5, ça dit « L'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. » Mais combien d'entre nous, nous avons déjà vécu un temps où une personne s'était imaginé quelque chose qu'on voulait pas vraiment dire ou vraiment faire, c'était pas notre intention, mais les gens se sont imaginé le pire de nous. Est-ce que ça s'est déjà produit dans votre vie? Ou quelqu'un vous avait mal perçu? Ben moi, ça m'est déjà arrivé, et il y en a peut-être d'autres, mais je pense qu'on est vraiment en minorité. OK, ma soeur Sylvie, elle aussi, OK. Gloire à Dieu, ça me donne de l'espoir. Mais savez-vous, des fois, les gens vont mal nous percevoir, et là, on peut se laisser détruire et nous empêcher, se décourager et s'empêcher d'entrer dans notre destinée. Mais non, on doit comprendre, c'est pas tout le monde qui va nous aimer, c'est pas tout le monde qui va nous comprendre, ça ne dérange pas, on continue quand même. Finalement, et je dis finalement, c'est même pas vrai, il me reste 10 points, là, c'est une joke. Ici, dans la montagne du découragement, ou la peur du changement plutôt, dans Jean 15, 1 à 2. Ici, là, on va lire un texte que vous avez lu, et quand vous l'avez lu, vous n'aimez pas ça. D'habitude, typiquement, les chrétiens n'aimaient pas ce texte-là. Mais aujourd'hui, vous allez vivre une révolution. Amen. Jean 15, verset 1 à 2, ça dit, « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. » C'est Jésus qui parlait. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On a lu ça et on dit, oh, ça fait émonder. C'est comme ça fait tailler. On n'aime pas ça. Et les chrétiens, ils n'aiment pas ça, entendre parler de ça. Et quand on vit des épreuves, oh, ben, Dieu est en train de me tailler, émonder. Il est en train de faire du travail dans ma vie. Puis c'est bien pénible, c'est bien dur. Avez-vous déjà perçu ça comme ça? Mais moi, je peux vous dire, quand on se fait tailler, là, on devrait se réjouir. Et savez-vous, quand on va tailler quelque chose, c'est parce qu'il y a des bouts de branches qui sont mortes. Et là, on arrive, on enlève le mort. Il y a des choses mortes, des œuvres mortes dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se réjouir que Dieu, il va nous tailler et nous rendre tout beau, parfait. Et là, savez-vous, il y a des choses dans notre vie, des choses, par exemple, peut-être des conceptions qu'on a, que Dieu va dire, ça là, ta pensée que tu as là, clop, je coupe ça, j'enlève ça de ta vie, comme ça tu vas grandir, tu vas porter plus de fruits. Il y avait cette chose-là qui t'empêchait d'aller de l'avant. Alors, tu avais cette idée, cette doctrine, cette chose dans ta vie qui t'empêchait d'avancer. Je coupe cette chose-là afin que tu puisses avancer. Alors, quand on lit ce texte-là, on devrait se réjouir et dire, « Hey, je vais porter plus de fruits parce que je me fais tailler par Dieu. » Gloire à Dieu! C'est bon, n'est-ce pas? C'est une bonne affaire, c'est rien de négatif. Jésus ne disait pas ça pour nous décourager, mais au contraire, se réjouir de ça. Donc, c'est un processus de libération, des mauvaises activités, peut-être des concepts, des doctrines, toutes sortes d'affaires. Et je peux vous partager un témoignage en terminant. Je vous donne faux espoir parce que j'ai encore 2 points en terminant. Là, moi, j'étais à Oshawa, en Ontario. J'étais convoqué avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur pour prier. Et je l'ai déjà raconté à certaines personnes ici, mais je pense que c'est important de le raconter parce que c'est une des choses que Dieu a changé dans ma vie, dans mes concepts. C'est un soir avant de me coucher, on était pour prier le lendemain ensemble toute la journée, ce regroupement d'intercesseurs. Et là, je priais, puis j'étais en train de me préparer pour me coucher, tout ça. Puis là, le Seigneur me dit, Joël, je veux que tu t'impliques au niveau des catholiques. Je veux que tu rejoignes les catholiques. Puis là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il va falloir que tu dépasses mon intelligence. Et je l'ai dit en anglais, j'ai dit, you'll have to bypass my brain. C'est les mots bypass my brain. Dans le sens, il va falloir que tu fasses ça au-dessus de mon intelligence ou me dépasser. Puis j'ai dit, moi, je ne sais pas comment faire. Et dans mon cœur, je ne veux pas faire du compromis. Je veux pas faire des choses qui sont pas correctes, Seigneur, tout ça. Puis je ne sais pas tout ce que tu veux de moi. Mais j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, va falloir que tu me dépasses. Et le lendemain matin, comme on a commencé à prier, on était dans le groupe comme ça, à prier ensemble. Et là, Tabitha, le maire, s'est mise à prophétiser sur moi. Puis elle dit, en anglais, elle dit, Joël, elle dit, Dieu t'appelle à t'investir dans le monde catholique. Puis elle dit, et Dieu te dit, I want to blow your mind. Pas juste bypass, c'était blow. Pff. Dieu voulait faire sauter ma tête. Comprenez-vous? C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, elle racontait, puis pendant 25 minutes, ils ont prophétisé sur mon implication au niveau de l'Église catholique. Alors moi, en recevant tout ça, moi je vais être ouvert à l'Esprit de Dieu, et je crois, si on va rejoindre la francophonie, puis on a le Québec avec 7 millions d'habitants, et la majorité d'entre eux sont catholiques, comment est-ce qu'on va faire et passer à côté des catholiques et s'imaginer qu'on va vivre le réveil sans rejoindre ces gens-là? C'est absolument absurde. Comment est-ce qu'on peut faire ça et dire que tous les catholiques vont rentrer dans nos églises évangéliques et vivre la puissance de Dieu, puis alléluia. Non. Mais à quelque part, Dieu va faire quelque chose comme ça, surnaturel. Mais faut se positionner dans la foi. Et en même temps, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, montre-moi exactement qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parce qu'une des choses, je ne changerai jamais mon message. Je changerai jamais qu'est-ce que je prêche. Je vais prêcher la même chose partout. Et si l'Église de Satan m'invite à prêcher, j'irai prêcher à l'Église de Satan et je vais prêcher encore que Jésus est Seigneur. Je changerai jamais mon message, je ferai pas de compromis. Mais une des choses, savez-vous, une des choses qui pourrait m'empêcher de dire oui à Dieu là-dedans, c'est que les gens pourraient commencer à dire, mais ce Joël-là, il a embarqué dans le mouvement œcuménique. Vous connaissez ce mouvement-là? C'est où... Et il y a toutes sortes de perspectives du mouvement. C'est qu'il y en a des gens qui disent que, bon, ce mouvement-là veut dire que toutes les religions sont bonnes et que finalement, on a juste à se rejoindre toutes les religions ensemble et c'est bien parfait. Et il y a l'autre pensée aussi qu'il faut toutes les dénominations chrétiennes se rejoindre ensemble et là, on est dans l'unité. Moi, je crois pas ça, pas en tout. Qu'est-ce que je crois? C'est que les enfants de Dieu, ceux nés de nouveau, doivent s'unir ensemble. Ceux qui sont nés de nouveau doivent s'unir ensemble pour vivre le réveil de Dieu. Donc, je ne parle pas d'une dénomination, je ne parle pas d'étiquette d'église, c'est pas ça, et pas des religions du monde. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, je ne m'unirai pas avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et dit, on a le même Dieu. Non, Jésus est le chemin. OK? Donc, je ne ferai pas de compromis, mais en même temps, si une église catholique m'invitait à aller prêcher le message de Jésus-Christ et comment on peut être sauvé et se faire pardonner nos péchés, est-ce que je vais y aller? Oui, je vais y aller. Est-ce que je vais me faire crucifier par l'église évangélique? Probablement. Ça se peut. C'est vrai. Et là, on va dire toutes sortes de choses à mon sujet, mais vous êtes déjà avertis. Vous êtes déjà avertis. Si vous avez de la misère avec ça, ben que Dieu vous bénisse. Non, mais c'est vrai. Mais je suis pas en train de dire que tous les chemins mènent à Dieu. Écoutez, moi, je dis pas ça. Il y a un seul chemin, mais si Dieu ouvre une porte chez les catholiques, chez les mormons, chez les témoins de Jéhovah, je vais aller prêcher le même message partout. Amen? Amen. Et là, gloire à Dieu. Ah, ben c'est bon, vous êtes d'accord. En terminant, une dixième fois, Marc, chapitre 9, verset 38 à 40. Les esprits religieux n'aiment pas ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ils n'aiment pas ça parce que faut que ça rentre toujours dans nos cadres. Mais Dieu est en train de changer les choses. Si on va vivre un réveil, il faut des fois que le sol tremble et qu'il y ait des changements. Marc, chapitre 9, verset 38 à 40, lisant dans la Bible français courant, ça dit, Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant ton nom. Et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Il n'appartient pas à notre groupe. Quel péché? Il n'appartient pas à notre groupe. Verset 39, « Mais Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Bon. Alors, s'il y a quelqu'un qui a de la misère avec qu'est-ce que je viens de dire, là, parce que on va dans d'autres groupes, admettons, pour prêcher l'évangile, bien, si quelqu'un n'est pas contre nous, il est pour nous. OK? Ça, on peut voir, bien, on va laisser Jésus répondre à notre place. Hein, on n'a même pas besoin de se défendre. Finalement, la montagne du découragement. Est-ce que j'ai même touché à l'autre? Ah oui, j'ai touché. Parfait. La montagne du découragement, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit persévérer dans la foi. Si Dieu vous a donné un rêve, une vision, on croit que le réveil s'en vient, peu importe la promesse que vous croyez pour vous-même, ne vous laissez jamais décourager. Mais vous devez faire face à cette montagne-là et au nom de Jésus, parler à cette montagne et la voir disparaître. Dans Jacques chapitre 1, verset 3 à 4, ça dit, « Vous savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. » Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. L'impatience mène au Ishmaël. Vous connaissez l'histoire d'Ishmaël, Abraham et Agar? Abraham avait reçu la promesse comme quoi il était pour être le père d'une grande multitude d'enfants, des nations. Et puis là, il dit, ah, c'est une belle promesse, mais il n'était pas prêt à attendre le temps de Dieu. Alors, il est allé chez la concubine, ben la servante de son épouse, Sarah. Il est allé chez Agar. Et puis là, elle est tombée enceinte et c'était Ishmaël. Donc, c'était pas la promesse de Dieu. Des fois, on est impatient. Faut que ça arrive tout de suite. Et si ça n'arrive pas tout de suite, on fait des choses comme ça. L'instabilité, le besoin de bouger, ça donne l'avortement. Des fois, quand on est trop pressé, on devance Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Ou même, Dieu nous donne quelque chose. Des fois, on devance pas Dieu. Des fois, on est en retard dans les plans de Dieu. Et on est négligent. Ou des fois, on est dans l'indulgence des choses qui ne sont pas de Dieu, ou peut-être on procrastine. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée, mais heureusement, aujourd'hui, on fait le ménage. Amen. On fait le ménage et on se dit, Seigneur, moi, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer à toi et je veux croire ce que toi, tu m'as dit dans le passé. Peut-être ça fait 20 ans, peut-être c'est une promesse que Dieu vous a donnée, ça fait 25 ans, je ne sais pas. Mais vous chérissez cette promesse-là et vous attendez le temps de Dieu pour qu'elle puisse porter fruit. Mais en même temps, même dans votre temps d'attente, vous êtes actif. Vous êtes actif à servir Dieu et en son temps, le Seigneur va vous promouvoir dans votre appel. Amen. Et là, vous arriverez sur le sommet de la victoire. Amen. Vous pourrez dire, le Seigneur m'avait donné la promesse, j'ai persévéré dans ses voies, j'ai continué. Oui, j'ai monté d'autres montagnes, oui, j'ai vu toutes sortes de montagnes et des difficultés, mais je me suis pas laissé décourager. J'ai continué le bon combat de la foi et je suis arrivé. Et un jour, on va tous arriver au ciel et on va recevoir les couronnes et les récompenses parce qu'on va avoir été fidèles. Moi, je veux entendre ces paroles-là. Viens, entre dans le repos de ton maître bon et fidèle serviteur. Amen. Et je crois qu'on veut tous cette chose-là. Mais on doit prendre la décision aujourd'hui. On doit prendre la décision d'être persévérant, de persister, d'être fidèle dans les choses de Dieu. Et on manquera rien de ce que Dieu en réserve pour nous. Croyez-vous ça ce matin? Amen. On peut applaudir le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Sois loué Jésus. Pendant l'équipe de la louange avance. Seigneur, on veut te remercier Seigneur ce matin. Parce que tu nous as donné à tous et chacun des rêves et des visions. Et Seigneur, il y a des gens qui se sont fait décourager, que les gens se sont moqués de ces rêves-là. Et aujourd'hui, je prie que le vent de ton Saint-Esprit souffle et enlève la poussière, Seigneur, sur ces cœurs et ceux qui se sont empêchés de rêver. Seigneur, tu connais les personnes dans cette église, les gens par la radio, par l'Internet, qui écoutent aujourd'hui. Je prie que le vent de ton esprit puisse enlever cette poussière, tous ces rêves qui ont été cachés, qui ont dormi pendant des années de temps. Je prie, Seigneur, qu'on puisse voir un réveil, que ces rêves-là puissent porter fruit, qu'on puisse relâcher notre foi, Seigneur, pour voir la réalisation de ces rêves-là. Parce qu'on sait, Seigneur, que tu veux sauver la francophonie. Tu veux te glorifier au Québec. Tu veux te glorifier en France, partout à travers l'Europe, en Afrique, Seigneur. Tu veux te glorifier dans notre peuple, les francophones. Mais Seigneur, tu as besoin de cette armée qui t'écoute et qui marche avec toi et qui répond à ton appel et qui ne laisse pas l'ennemi et les esprits religieux les empêcher d'entrer dans leur destinée. Et Seigneur, aujourd'hui, je prie que chaque personne quitte cette place renouvelée dans leur foi, renouvelée, Seigneur, dans leur détermination d'entrer dans leur terre promise, qui abandonneront jamais ce rêve et cette vision, cette promesse, Seigneur, que tu leur as donnée. Je te remercie aujourd'hui qu'on quitte cette place, encourageant toi, sachant que le réveil s'en vient et qu'on en fait partie. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.